commence par Aquelos, bien sûr. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Plus de films, plus de pubs, la télé va changer. C'est la réforme de l'audiovisuel qui rebat les cartes. Netflix est passé par là, qui va devoir payer pour l'exception culturelle française. Explication dans un instant. La retraite à 67 ans, quand on a commencé à travailler à 24 ans, les cadres font leurs calculs, mais la réforme n'est pas bouclée, dit Jean-Paul Delevoye dans sa toute première interview depuis sa nomination au gouvernement hier, on va l'entendre. Porter plainte à l'hôpital quand on est violenté par son conjoint, l'annonce du gouvernement, vous allez le voir, fait peur aux médecins et aux infirmières. Le bonheur commence-t-il à 50 ans? Ça, c'est la théorie de votre invité, Nicolas.
Oui, et puis j'aimerais bien que la réponse soit oui. Notre invité, c'est le romancier et philosophe Pascal Bruckner, qui publie donc Une brève éternité, philosophie de la longévité. C'est chez Grasset. Intervenez au 01 45 24 7000, quel que soit votre âge, ou via les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, la guérilla parlementaire de Westminster, Boris Johnson dégaine les élections anticipées. Passer son permis en zone rurale pour avoir plus de chances de l'avoir. Et puis Molière au Panthéon, c'est le combat de Francis Huster.
France Inter.
Un film le samedi soir à la télé française, interdit depuis 40 ans pour ne pas pénaliser les cinémas à l'époque. Cela a-t-il encore du sens à l'heure de Netflix et du replay? Non, a tranché le ministre de la Culture Franck Riester, qui a détaillé une partie de sa future réforme de l'audiovisuel. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Florence.
Il faut donc s'attendre à du changement à la télé.
Oui, plus de films à la télé et plus de pubs aussi. Les chaînes ont aujourd'hui le droit de diffuser 192 films par an, mais pas tous les jours. Des obligations qui datent du milieu des années 80, eh bien, le gouvernement veut faire sauter ce verrou. Elles pourront, à partir du début de l'année prochaine, diffuser 52 films de plus, 244 films par an, en tout, quand elles le veulent. Autre réforme majeure, la pub. Il y en aura plus. 3 spots, par exemple, pour un film de plus de 90 minutes. Mais le grand changement est ailleurs. La publicité va changer de forme. Elle sera désormais ciblée et segmentée. Concrètement, ça veut dire que vous n'aurez pas les mêmes annonces si vous habitez Paris ou Marseille. Et à terme, comme sur les plateformes en ligne, vous aurez une publicité qui correspond à vos habitudes d'achat. Pour résumer, la télé va mieux vous épier et donc mieux vous cibler.
Alors l'autre volet de cette réforme, Thibault, concerne directement Netflix et les plateformes de vidéo. Elles vont devoir financer l'exception culturelle française.
16% de taxes au moins sur les chiffres d'affaires de Netflix, Amazon, vous l'avez dit, bientôt Disney, Warner Media, Apple. Un total d'un demi-milliard d'euros et donc des recettes pour la création française qui pourraient approcher les 100 millions d'euros. Comme pour la taxe GAFA appliquée cette année, le gouvernement entame donc un bras de fer avec les géants du numérique. Et s'ils ne coopèrent pas, il pourrait y avoir des sanctions, des amendes d'abord, et une éventuelle interdiction de diffusion dans les cas les plus extrêmes. Pour le moment, Netflix dit rester ouvert aux discussions, mais précise déjà avoir mis sur la table de sa propre initiative 100 millions d'euros pour la création française.
Thibault Lefèvre, merci. Et pas d'éléments pour l'instant sur l'audiovisuel public, la nomination des présidents de Radio France et de France Télévisions, ou leur regroupement dans une holding. Les arbitrages n'ont pas été rendus, dit-on, au ministère de la Culture. J'en profite pour vous dire que Radio France a été récompensée par CB News, qui lui a décerné son grand prix hier soir. Meilleure émission de radio Boomerang d'Augustin Trapenard sur France Inter. Et mention spéciale du jury pour le reportage de Sophie Parmentier de la rédaction française emprisonnée à Bagdad, à réécouter sur franceinter.fr.
Et un très grand bravo à eux deux. Il est 8h04, Florence, ils vont balayer les grands sujets de la rentrée. Tous les ministres ont rendez-vous à l'Elysée aujourd'hui.
Mais oui, c'est l'heure du séminaire annuel pour mettre tout le monde au diapason de la nouvelle méthode Macron. Prudence et consultation en général sur la réforme des retraites en particulier, portée désormais par Jean-Paul Delevoye au sein même du gouvernement. La loi reste à écrire, mais l'hypothèse d'un allongement de la durée de cotisation a les faveurs d'Emmanuel Macron, sans faire les affaires d'une bonne partie de son électorat, les cadres qui rentrent tard dans la vie active et qui ne se voient pas vieillir à leur bureau. Laurent Kramer.
Sorti de son école de commerce à 24 ans, aujourd'hui à la moitié de sa carrière, Pascal, cadre dans l'informatique, ne s'imagine pas travailler au-delà de 65 ans.
C'est vrai qu'on démarre plus tard parce que les études sont plus longues, elles coûtent. En fait, ça va être très compliqué. Moi, je suis cadre et je suis dans le commerce. Passer 65 ans, faire le tour de France ou autre, c'est un peu compliqué quand même physiquement. Donc comment on finit sa carrière en fait? Donc il y a des vraies questions de fond et on n'est pas épargné quoi.
Il sera donc difficile, y compris pour un cadre, de prolonger son activité sans aménagement de fin de carrière, conclut Monsieur Pascal, Sylvie, elle est cadre dans la fonction publique. Si elle se résigne à partir tardivement à la retraite, elle déplore le niveau de sa future pension.
Donc j'ai commencé ma vie active à 24 ans. Et pour obtenir une retraite à taux plein, il faudra que je travaille jusqu'à 66 ans et demi, 67 ans. Et j'aurai une retraite inférieure à celle que touche un cadre de la fonction publique aujourd'hui.
Mais les cadres se constituent également un patrimoine durant leur carrière. La durée de cotisation importe donc peu pour eux et reste le système socialement le plus juste, estime Germain, cadre dans le tourisme.
Ça me semble exactement de bon sens. Quelqu'un qui commence très tôt finit plus tôt. Un cadre qui commence plus tard à travailler, il finit plus tard. Mais si les gens veulent partir avant la fin de leur annuité parce qu'ils estiment qu'ils ont assez d'argent pour vivre une retraite agréable, ça me paraît être beaucoup plus souple.
Les cadres seront pourtant bien défavorisés par ce futur système de retraite par points, s'inquiète la CFE-CGC.
Et c'est donc Jean-Paul Delevoye qui passe en première ligne, chargé de réformer les retraites au gouvernement. Il recevra les partenaires sociaux avec Édouard Philippe à Matignon demain pour leur dire que rien n'est encore tranché entre âge pivot et allongement de la durée de cotisation.
Dans mon rapport, il y a plusieurs sujets qui sont importants. Nous avons proposé dans notre rapport de réduire l'écart entre les hommes et les femmes, de redistribuer en fonction des retraites les plus précaires et de faire en sorte qu'à cotisation égale, retraite égale, métier identique, retraite identique. Et sur les problématiques d'âge qui sont très importantes, le président a souhaité maintenir une liberté de choix à partir de 62 ans et comme dans le système actuel, de réfléchir à la notion du taux plein qui est lié à la durée. Et j'ai fait une autre préférence, et le débat aura lieu et il faudra à un moment donné choisir et peut-être tirer une synthèse de ces deux positions.
Jean-Paul Delevoye interrogé sur France Bleu Nord pour sa toute première déclaration depuis sa nomination hier. La douloureuse à Bercy, c'est 5800 suppressions de postes entre 2020 et 2022, annoncées par Gérald Darmanin au syndicat et justifiées par le prélèvement à la source et la suppression de certaines taxes, argument qui ne tient pas pour Anne Guyot-Valqueux, porte-parole du syndicat solidaire Finances Publiques.
On n'est pas surpris, on est dans une politique de réduction de la dépense sous Monsieur Macron et sous Monsieur Darmanin, mais ça fait depuis des années que le ministère subit des suppressions d'emplois et au cas particulier la Direction générale des finances publiques. En fait, c'est une accélération des suppressions d'emplois et l'argument du prélèvement à la source ou de la suppression de la taxe d'habitation n'est pas un argument valable pour supprimer des emplois. Concernant le prélèvement à la source, ça n'a pas modifié, ça n'a pas allégé les tâches des agentes et des agents, bien au contraire.
On l'a d'où cet appel à la grève lancé par les syndicats des finances publiques pour le 16 septembre. Une amende record pour Amazon en France, 4 millions d'euros pour cause de clauses abusives envers ses fournisseurs, des contrats modifiables à tout moment par le site par exemple, sans même en informer les entreprises vendeuses. 6 de ces clauses devront être modifiées par décision du tribunal de commerce de Paris.
Il est 8h08, Florence, de la difficulté de porter plainte quand on est maltraité par son conjoint.
C'est l'un des nombreux écueils rapportés par les femmes concernées, d'où l'audit des commissariats et des gendarmeries annoncé hier au premier jour du Grenelle sur les violences conjugales, assorti de la possibilité de porter plainte directement à l'hôpital. Est-ce que c'est une bonne idée? Benjamin Illy a posé la question aux médecins et aux infirmières de l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
À l'arrêt de tram devant l'hôpital, une infirmière sur le départ.
Valérie.
Elle a passé la journée au service addictologie et là aussi, Valérie voit passer très régulièrement
des mots, des coups,
des femmes victimes de violences conjugales.
Sur 12 consultations, il y aura une femme
victime de violences.
De violences conjugales. Donc on leur dit ce qu'il faut faire, on essaye de les diriger.
Les encourager à porter plainte.
Bien sûr, on les encourage à porter plainte. C'est ce qui est le plus difficile parce qu'il faut aller vers un autre lieu, le temps de la réflexion, des fois elles vont pas jusqu'au bout de la démarche.
Alors l'idée de déposer une plainte directement à l'hôpital?
Moi je pense que c'est une très bonne idée.
Et des policiers à l'hôpital, ça vous dérangerait?
Un peu.
Non, on ne peut pas transformer les urgences d'un hôpital public en commissariat.
Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, surpris, c'est peu de le dire, par les propos du Premier ministre.
On n'a pas du tout été préparé à cette annonce. Il est pour moi essentiel de conserver une véritable étanchéité entre la médecine et les forces de police. Nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, mais je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à mettre une annexe du commissariat dans les urgences. C'est une fausse bonne idée.
Au ministère de la Santé, rien ne filtre. Aucun détail pour l'instant sur ce dispositif généralisé qui permettrait de déposer une plainte à l'hôpital. Nous travaillons sur la question, nous dit-on, sans plus de précision.
Toutes les mesures annoncées par le gouvernement hier sont sur franceinter.fr. Sachez enfin que le meurtrier présumé de la jeune femme de Cagnes-sur-Mer, tué ce week-end en pleine rue, a été mis en examen et placé en détention. Il continue à nier les faits.
Il est 8h10, Florence. Au Royaume-Uni, le scénario est conforme à ce qu'on attendait à la Chambre des communes.
Boris Johnson, mis en minorité hier soir par un vote qui permettra de repousser le Brexit, veut désormais convoquer des élections anticipées. Tout cela s'est joué dans une assemblée surchauffée, un show à l'anglaise, suivi par Marie-Pierre Véraud avec un groupe d'amis britanniques qui veulent le maintien du Royaume dans l'Union européenne.
Daniel Lee, qui accueille chez lui quelques amis, a déjà une idée de l'issue de la soirée.
On va voir dans une heure et demie, mais je pense que ça va être une catastrophe totale pour le gouvernement.
Le débat s'engage dans un hémicycle clairsemé, il ne convainc guère Elisabeth.
Ce soir, c'est encore une mise en scène de ceux qui disent « c'est moi qui représente le plus les principes de la démocratie ». Il faut bien être au-delà de ça maintenant.
Et voilà que les proches de Boris Johnson appellent les conservateurs à serrer les rangs et soutenir un Brexit au 31 octobre. Les récalcitrants menacés d'exclusion, quel que soit leur pédigré.
C'est le petit-fils de Churchill qui est là. Alors lui, figurez-vous, le petit-fils de Churchill va perdre le droit de s'asseoir avec le parti conservateur. C'est impensable.
Le vote est pourtant sans appel pour le Premier ministre. Et maintenant, des élections, elles ne devraient rien changer, estime Michael.
C'est l'impasse. Ça va continuer comme une impasse. Parce que le pays est divisé en deux.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est très simple. C'est compliqué et simple à la fois.
Seul sentiment partagé autour du petit écran, le parti conservateur glisse sur une pente très dangereuse. Londres, Laurent Macchietti, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et des élections anticipées auront lieu à la mi-octobre si deux tiers des députés se prononcent pour. En Italie, les militants du mouvement 5 étoiles approuvent la nouvelle alliance avec les sociaux-démocrates. Le Premier ministre Giuseppe Conte devrait donc présenter son gouvernement ce matin avant de prêter serment à Rome. Facebook recule sur la reconnaissance faciale. Il faudra désormais activer la fonction si l'on veut être identifié sur les photos postées sur le réseau jusqu'ici. C'était automatique. Le permis à 17 ans, moins cher. L'apprentissage sur simulateur, ces nouveautés annoncé cet été, doit faciliter le passage des jeunes au statut de conducteur. Encore faut-il l'obtenir, ce permis, et c'est toujours difficile en région parisienne. Alors ils sont nombreux, Delphine Evenou, ceux qui vont tenter leur chance en zone rurale, comme à l'auto-école de Saint-Ouen-des-Alleux, 1350 habitants en Ille-et-Vilaine.
Un peu traumatisée par un échec au permis dans les rues de Cergy-Pontoise, Emma, 21 ans, a arrêté de miser sur la jungle urbaine.
C'était après avoir pris 50 heures de conduite et deux auto-écoles. Et puis aussi parce que mes parents dépensaient beaucoup d'argent, je pense plus de 3000 euros.
L'étudiante parie aujourd'hui sur les départementales bretonnes. 4 à 6 heures de conduite par jour sur une semaine. Les remontrances de la monitrice sont incluses dans le forfait.
Qui est prioritaire, qui
te... Une méthode façon gant de boxe, mais visiblement efficace.
J'ai plus peur de conduire.
T'es sérieuse ou quoi ? C'est quoi ça ?
Ces Parisiens désespérés constituent 30% de la clientèle de Noël Bourdois qui s'arrache parfois les cheveux.
Ils savent pas conduire.
Ah bah ici c'est autre chose que la conduite parisienne, hein. Là il faut qu'ils y aillent. Hein. C'est fluide ici, on roule. Donc il y a le stress de la boîte de vitesse parce qu'ils ne savent pas la gérer correctement.
Saint-Ouen-des-Alleux n'est pas un cas isolé. Le patron de la plateforme internet Passer mon permis en province, Arié Bismuth, envoie ses clients aux quatre coins de la France.
On a plus d'une centaine de candidats qui quittent Paris tous les mois. On travaille essentiellement dans le sud de la France, donc la Lozère, le Gers. C'est des endroits qui sont plutôt sereins pour passer son permis de conduire.
Selon la sécurité routière, le taux de réussite au permis est inférieur à 50% dans les grandes métropoles. Il peut dépasser les 80% dans les communes de moins de 30 000 habitants.
8 heures de retard pour des passagers d'un Paris-Dijon cette nuit, arrivé après 3 heures du matin à cause d'un feu de forêt en Côte d'Or. 9 trains ont ainsi été retardés. Surprise à l'US Open de tennis cette nuit à New York, Roger Federer éliminé par le Bulgare Dimitrov, 78e mondial en 5-7. Vendredi pour les demi-finales, Dimitrov affrontera le Russe Medvedev qui a battu Stan Wawrinka. Chez les dames, Serena Williams a laminé la Chinoise Wang 6-1, 6-0. Prochain rendez-vous face à l'Ukrainienne Svitolina. Et si Molière entrait au Panthéon le 14 janvier 2022 pour le 400e anniversaire de sa naissance? C'est le noble combat de Francis Huster qui sort un livre, plaidoyer Molière, mon Dieu, et qui lance une pétition, Stéphane Capron.
Francis Huster interpelle directement Emmanuel Macron au début de son livre dans une lettre ouverte au président de la République. Il lui explique que Molière a été le guide de toute sa carrière. Molière est l'un des plus grands ambassadeurs de la France France dans le monde. Quand on parle de la langue française, on parle d'ailleurs de la langue de Molière. Au Panthéon sont entrés de grands auteurs, Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola. De son vivant, Molière s'est fait refuser l'entrée à l'Académie française. Pour Francis Huster, il faut réparer une injustice.
C'est incroyable, dans le monde entier, tout le monde s'étonne de l'absence de Molière au Panthéon. Les Anglais, par exemple, ont mis la statue de Shakespeare dans l'abbaye de Westminster depuis le début du XVIIIe siècle. Si je n'y arrive pas, ça sera l'échec de toute une vie. C'est très important parce que ça prouverait enfin que le peuple est entré au Panthéon. Dieu sait si j'ai de l'admiration pour ceux qui sont au Panthéon, à commencer justement par Hugo et Jean Moulin et Simone Veil, mais je pense qu'il y manque au Panthéon justement la voix du peuple.
Pour le moment, la pétition de Francis Huster a réuni un peu plus de 6000 signatures. Il espère atteindre le chiffre des 100 000 pour convaincre Emmanuel Macron.
Entre ici Jean-Baptiste Poquelin, et si la pétition vous intéresse, vous en trouverez le lien sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.